Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Nous sommes le vendredi 28 mars et au sommaire de cette édition, la terre a tremblé en Birmanie. Un séisme a secoué violemment le pays il y a quelques heures. Les dégâts sont très importants, le nombre de victimes très élevé. Au moins 144 morts et 723 blessés. L'actualité internationale dominée aussi par la reprise des bombardements israéliens au Liban. L'armée israélienne a visé des quartiers peuplés du sud de la capitale Beyrouth. Indignation dans ce journal d'Emmanuel Macron, le président français qui recevait aujourd'hui à Paris le président libanais. Pour régler le conflit en Ukraine, les propositions de Vladimir Poutine, le président russe évoque l'idée de la création d'une administration qui gérerait le pays, mais sans Volodymyr Zelensky. Et puis enfin, nous parlerons d'environnement. La France aimée dégage toujours trop de gaz à effet de serre, des gaz en trop grande quantité, mauvais pour la planète, nous expliquera à la fin du journal Simon Rosé. Un tremblement de terre pour débuter cette édition. Un puissant séisme a frappé la Birmanie. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir, je vous le disais, au moins 144 morts dans un pays où les infrastructures, les bâtiments sont en très mauvais état à cause d'une guerre civile qui secoue le pays depuis près de 4 ans. Dans les hôpitaux, en partie détruits de la ville de Mandalay, proche de l'épicentre du tremblement de terre, des patients affluent mais manquent de soins. Écoutez le témoignage de Johanna Chardonieras de l'ONG Info Birmanie.
Des informations qui commencent à sortir, notamment de la région de Mandalay et de Sagaï, qui sont les plus touchées par le séisme. De nombreux bâtiments ont été détruits sur la capitale militaire de Naypyidaw. Une partie du Parlement s'est effondrée, une partie des hôpitaux. Il y avait déjà extrêmement peu d'infrastructures et peu de personnel médical qui continuait à travailler dans ces zones sous contrôle de la junte. Là, ce qu'on voit, c'est des patients qui attendent dehors, tout simplement, vu qu'il n'y a plus de bâtiments. Et que tout s'est effondré. Il y a de nombreux problèmes de communication avec des lignes téléphoniques qui se sont effondrées. Donc les informations arrivent au compte-gouttes. On a plusieurs informations sur des bâtiments religieux, des monastères et des mosquées qui se sont effondrés, dans lesquels s'étaient abrités des déplacés internes. Donc malheureusement, on craint qu'il y ait de nombreuses victimes à venir. Et le séisme semble très étendu, avec des impacts dans l'État Shan, aussi dans l'état Rakhine. Peu de nouvelles pour le moment du côté de Yangon, mais une grande partie du pays semble avoir été touchée par ce séisme.
Des propos recueillis par Heike Schmidt. La junte au pouvoir, celles et ceux qui dirigent actuellement la Birmanie, lance un appel à l'international pour aider les sinistrés. Dans ce journal à présent, nous sommes au Proche-Orient. Israël a bombardé aujourd'hui le Liban. Ce n'était pas arrivé depuis 4 mois. Des bombardements qui ont visé les quartiers sud de la capitale Beyrouth. Avec ces frappes, Israël dit avoir riposté, répondu par les armes à des tirs de roquettes vers son territoire. L'armée israélienne a aussi ce qu'on appelle violé le cessez-le-feu, n'a pas respecté l'accord de trêve signé le 27 novembre dernier. Ce bombardement fait réagir Emmanuel Macron, le président français qui recevait aujourd'hui à Paris le président libanais, Joseph Aoun. Si Emmanuel Macron fait part de sa solidarité au peuple libanais après la frappe israélienne de ce matin à Beyrouth, le chef de l'État français dit aussi son incompréhension.
Les prochaines heures nous permettront de clarifier la totalité de ces points, mais à ce stade, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'activité qui justifiait des frappes. Et donc il est absolument nécessaire que le cadre que nous avons défini, qui a été agréé par le Liban et par Israël, soit dûment respecté. Il n'a pas été respecté aujourd'hui par Israël, de manière unilatérale, et sans que nous n'ayons eu ni information ni preuve des faits générateurs ou du déclenchement. Fort de cela, nous allons continuer d'y travailler ensemble avec nos équipes. J'appellerai dans les prochaines heures le président Trump pour échanger avec lui sur ce sujet. Et j'aurai l'occasion d'avoir dans les 48 prochaines heures le Premier ministre israélien pour avoir entre autres un échange nourri sur ce sujet.
Emmanuel Macron ce matin à Paris suite à ces bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth. L'actualité également en Palestine. Certains l'appellent la guerre silencieuse. Alors que les regards se tournent régulièrement vers Gaza, où les bombardements aussi ont repris avec une intensité, eh bien la situation en Cisjordanie occupée se tend chaque jour de plus en plus, notamment à Jenin, où par exemple ce sont 800 bâtiments qui ont été partiellement ou totalement détruits, victimes de bombardements israéliens. Notons par ailleurs que selon le journal israélien Haaretz, 95 immeubles sont promis toujours à la destruction à Jenin. Des destructions aussi au cœur de la vieille ville de Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, partie de la ville illégalement occupée et annexée par Israël, comme nous l'explique notre correspondante sur place, Amira Swilem.
Réfugiés sur nos propres terres, c'est ainsi que certains Palestiniens se décrivent désormais. À Jérusalem-Est, la crainte des bulldozers est dans tous les esprits. C'est le cas notamment dans le quartier de Silouane, qui jouxte la vieille ville de Jérusalem. Ibrahim El-Hendi est le président de l'Association des architectes palestiniens.
Les Israéliens estiment que Silouane correspond à la cité du roi David et donc ils concentrent leurs attaques sur ce quartier. En 2024, 255 maisons ont été endommagées. Je pense qu'ils profitent de la guerre à Gaza pour attaquer ici. Ils en profitent parce que l'attention médiatique est concentrée sur Gaza.
Certains savent leur jour dans le quartier compté. Nous avons ainsi rencontré une famille palestinienne qui a réussi à négocier via ses avocats que sa maison ne soit détruite qu'après la fin du Ramadan. Alors que les Palestiniens obtiennent difficilement des permis de construire, la municipalité de Jérusalem traque les constructions considérées comme illégales.
Il est demandé aux Palestiniens de détruire eux-mêmes leur maison ou alors de payer une amende pour que des machines de la municipalité soient envoyées sur place pour détruire le bâtiment en question. Je crois que la Palestine est le seul endroit au monde où les habitants doivent payer pour qu'on vienne détruire leur maison.
Une guerre silencieuse donc, et psychologique aussi, disent les Palestiniens. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Parmi les dernières idées de Vladimir Poutine pour tenter de régler le conflit en Ukraine, le président russe propose la création d'une administration transitoire pour l'Ukraine. Une administration sans la présence de Volodymyr Zelensky, précise Vladimir Poutine, et ce sous l'égide des Nations Unies, autrement dit co-géré avec les services des Nations Unies.
Le journal en français facile.
Ouvrons une page environnement pour cela. Accueillons Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Pour nous parler tout d'abord des émissions de gaz à effet de serre. Ce que produit la France, ce qu'elle dégage dans le ciel. Alors juste avant de développer votre sujet, Simon Rosé, une question. Les gaz à effet de serre, en quelques mots.
Ce sont les gaz qui sont échappés dans l'atmosphère par notre utilisation des combustibles fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon. Et ces gaz à effet de serre sont les principaux responsables du réchauffement climatique qu'on observe en ce moment.
Alors s'ils sont en baisse en 2023, c'est plutôt une bonne chose. Une baisse moins marquée que les années précédentes et en fait, c'est ça qui est moins bien.
Et oui, il y avait eu 373 millions de tonnes en 2023 émises par la France, 366 millions en 2024. Les émissions françaises de gaz à effet de serre poursuivent donc leur baisse, moins 1,8%. Mais le rythme interroge entre 2022 et 2023. La baisse approchait alors les 6%. Et c'est une dynamique qu'il faudra retrouver pour tenir les objectifs que le pays s'est fixé sur le papier. Il y a des marges. L'an dernier, c'est essentiellement le secteur de l'énergie qui a contribué à la baisse des émissions françaises, moins 11%, en raison notamment d'une meilleure disponibilité des moyens de production nucléaire et hydroélectrique, en clair les barrages. Pour les autres secteurs, c'est en revanche presque du surplace, moins 1% pour le logement, moins 2% pour l'industrie et la construction. Le transport reste toujours le secteur le plus compliqué, moins 0,7% seulement. Beaucoup de chiffres, Adrien, pour une réalité. Après des années à un rythme soutenu, la transition écologique française entre dans le dur. Pas sûr que la situation évolue dans l'immédiat, tant le domaine a perdu des plumes dans le budget 2025 du pays, avec parmi les principales victimes l'enveloppe qui est destinée au verdissement, à rendre plus propre le parc automobile. Cette enveloppe, elle a été divisée par 3.
Simon Rosé, dans votre journal en français facile, à retrouver du lundi au vendredi 16h, temps universel.